le grand dialogue
sigika foba
edewani wa makaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni beri
halud mawdi
chenni beri sigika foba
le grand dialogue.
Les difficultés d'accès et la détérioration de la qualité des services sociaux de base au Mali constituent un grand défi pour le pays. Parmi les principaux secteurs touchés, l'éducation, la santé, la sécurité, l'habitat, entre autres. Quels sont les défis et enjeux? Quelle approche adopter face à cette situation? Nos invités pour ce débat de ce soir, Mamadou Kanté, directeur du programme d'engagement civique PEC, Ousmane Sy, ancien ministre coordinateur de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, Dr Adama Traoré, président de la coordination des associations et regroupements de la société civile. Je suis Mohamedou Touré, Seydoumbo est à la technique.
Le grand dialogue.
Alors ce soir, nous allons parler de quelle approche pour la gouvernance sur les services sociaux de base au Mali. Nous avons trois invités. Bonsoir Monsieur Mamadou Kanté, vous êtes directeur du programme d'engagement civique PEC.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ousmane Sy, ancien ministre, vous êtes également coordinateur de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique.
Bonsoir.
Et le troisième invité, Dr Adama Traoré, président de la coordination des associations et regroupements de la société civile. Bonsoir,
Bonsoir.
Monsieur Traoré. Alors, la première question, ce soir, nous allons la poser à l'ancien ministre et également coordinateur de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Aujourd'hui, au Mali, quels sont les défis et enjeux liés à la gouvernance sur les services sociaux de base?
Les défis liés à la... aux services sociaux de base sont d'abord les défis d'accessibilité. Il faut que les services sociaux de base soient accessibles à tous les Maliens, partout où ils sont. Et c'est ça qui donne sens, et c'est ça qui donne du crédit à l'action publique, donc à la première puissance de l'action publique qui est l'État. Si un État n'est pas dans la capacité de délivrer les services publics de base, sociaux de base, il n'est pas crédible. Et c'est un défi que nous avons aujourd'hui. Déjà, ce n'est pas un défi nouveau, c'est un défi déjà très ancien, parce que depuis l'indépendance de notre pays, l'accès aux services publics de base, aux services sociaux de base, comme vous dites, est une question importante. Les différentes réformes, les différents efforts, les différents programmes qui ont été faits ont fait qu'il y a eu un processus qui s'est déclenché Particulièrement, la réforme de décentralisation a fourni de gros efforts quand il s'agit de l'école, quand il s'agit de la santé, quand il s'agit de l'eau potable, quand il s'agit simplement aux actes d'état civil, parce que c'est quand même un service social de base aussi. L'installation des communes, ça a permis de beaucoup rapprocher les populations et l'action publique de base. Mais depuis la crise de 2012... Bon, avec toutes les difficultés de gestion du territoire qu'on a, je crois qu'aujourd'hui, c'est une question qui nous interroge fortement. Et ça qui fait qu'il faut vraiment aujourd'hui bien réfléchir et voir comment nous allons... Parce que ça ne peut pas attendre la fin de la crise, les populations sont là. Tout en gérant la crise, adopter de nouvelles stratégies ou renforcer celles qui existaient.
Mais ce problème existait avant la crise.
C'est un problème qui a toujours existé, parce que, vous savez, quand vous regardez le taux d'accès à l'éducation de base, est un taux qui s'est amélioré, mais qui interroge toujours. Le taux d'accès à la santé interroge toujours. Donc, ce n'est pas un nouveau problème, mais l'acuité est plus importante aujourd'hui à cause de la crise.
Alors, Monsieur Mamadou Kanté, vous êtes directeur du programme d'engagement civique. Quels sont les principaux défis liés aux services sociaux de base au Mali?
Bon, je crois que Monsieur le ministre a déjà touché différents points qui relèvent des défis. Je ne peux pas en dire plus réellement. Je pense qu'il a déjà touché à la... Et surtout à la contribution, il y a des défis, mais quand même il y a eu des efforts qui ont été faits, et des efforts dans le cadre de la décentralisation qui ont permis de prendre à bras le corps ces défis avec le soutien d'organismes comme l'USAID qui est dans, qui sont dans ce domaine-là et qui la main dans la main avec l'État.
Alors, nous parlerons des actions. Nous allons donner la parole à Dr. Adama Traoré. Vous êtes le président de la coordination des associations et regroupements de la société civile. Vous êtes les premiers acteurs concernés par rapport à cela. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces difficultés?
Mais les difficultés sont énormes. Comme l'a dit tantôt Monsieur le Ministre, c'est un problème qui a toujours existé. Mais évidemment, il y a une action particulière par rapport à la crise actuelle. La crise a accentué beaucoup de choses, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la sécurité, que ce soit même l'accès à l'eau potable aujourd'hui. Donc nous sommes, si vous voulez, nous consommons. Nous sommes directement concernés par ce problème-là. Et le problème de la santé aujourd'hui, pas seulement les campagnes, même dans la ville, ça se sent. Donc il faut qu'ensemble on puisse voir comment améliorer, n'est-ce pas, actuellement, maintenant, ces services de base-là. Donc il y a un problème réel qui se pose, il faut y réfléchir, poser le diagnostic clair pour que nous puissions avancer. Je pense que à notre niveau, c'est un peu par rapport à ça.
Nous allons écouter certains habitants de Bamako qui ont réagi par rapport à la difficulté d'accéder aux services sociaux de base.
Les écoles gouvernementales, vraiment, I'm sorry. Je suis désolé. Pour avoir la santé, que tu sois bien soigné, tout le monde ne peut pas accéder dans les cliniques. Je suis désolé pour ma nation. Ce grand Mali, ce Mali majuscule, est en minuscule aujourd'hui en live. Respect. Il n'y a pas de sécurité au Mali. On se remet à Dia. Adieu.
Le problème là-bas, les gens sont mal soignés. On dirait qu'il n'y a pas de médecin. Les gens sont mal soignés. C'est pour ça que les gens refusent, préfèrent mourir à la maison que d'aller à l'hôpital. Parce qu'ils ne sont pas bien accueillis, il n'y a pas de matériel adéquat pour leur traitement. Il faut qu'on change le programme. Il faut refaire l'enseignement. L'adapter comme on est aux normes internationales.
Au Mali, il n'y a même pas de services sociaux de base parce que pratiquement tout ce qui est fait sur le dos du citoyen. Aucune considération pour le citoyen lambda. Au niveau de la santé, la période de grève, presque combien de mois on n'est pas arrivé à trouver la solution. Ça veut dire que pratiquement aucune considération pour le citoyen. L'État est là pour lui-même, je veux dire. Et ils sont soignés ailleurs, pas ici. Est-ce qu'il y a l'éducation? Tous ceux qui nous gèrent aujourd'hui, ils sont tous passés par l'école publique aujourd'hui. Voir, est-ce que l'école publique existe? Il faut revaloriser et la fonction enseignante et l'enseignant lui-même, reformer pratiquement l'école en entier. Carrément, la sécurité seulement, c'est là pour le président. Sinon, un chef d'État qui a été élu à 78%, est-ce qu'il a besoin de se faire accompagner par un armada? Non, il est sécurisé par le peuple. Quand il y a déphasage, les gouvernements sont en déphasage avec les citoyens. Ils sont obligés réellement de s'entourer avec, je ne sais pas ce qu'on peut appeler comme sécurité.
Bon, je pense que quand vous partez à l'hôpital, on doit être bien accueilli, quoi. Quand vous partez dans les hôpitaux publics, ce n'est pas les cas, vous êtes maltraité.
Moi, ce que je propose, c'est vraiment une gouvernance orientée vers le bonheur des Maliens, comme le président de la République lui-même l'a souhaité lors de ses campagnes précédentes. Vraiment, il faut que ce slogan devienne une réalité. Et ce slogan ne peut pas devenir une réalité tant qu'il n'y a pas une gouvernance basée sur les questions locales. Parce qu'il faut aller aux acteurs, il faut aller vraiment en profondeur pour résoudre les problèmes.
Parce que vraiment, on est très très fatigué. Même quand tu dois partir à l'hôpital, tu as peur. Tu ne sais même pas quoi faire, surtout quand tu n'as pas les moyens.
Alors, Monsieur le Ministre, la qualité des services sociaux de base est dénoncée. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi la qualité des services sociaux de base ne cesse de se détériorer?
Moi, je vais vous donner une illustration très simple. Vous savez, là, c'est le problème des ressources. Ce n'est pas autre chose, c'est le problème des ressources. Pour que les services publics de base soient délivrés de façon efficace et à proximité des populations, il faut mettre les ressources là où elles doivent être.
Mais malheureusement, de mal gouvernance.
Malheureusement, dans notre pays, malgré toutes les réformes qu'on a faites, malgré même la décentralisation territoriale, quand vous regardez comment les ressources sont gérées et affectées, vous vous rendez compte qu'on n'a pas beaucoup bougé. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il fallait encore approfondir. Aujourd'hui encore, sur chaque 100 francs que l'État dépense, en termes de dépenses publiques, 90 francs sont dépensés par les administrations centrales. Plus de 60% du personnel, des ressources humaines de l'État sont concentrés à Bamako et environ. Alors, comment voulez-vous que le service public soit... Donc, c'est le problème des ressources. Aujourd'hui, si nous voulons que le service public soit à proximité des populations, il faut envoyer des ressources humaines et financières dans les administrations de base. Qu'elles soient décentralisées ou déconcentrées d'ailleurs. Parce que autant les administrations de base déconcentrées sont dépourvues de moyens. Moi, je sais bien de quoi je parle. J'ai été ministre de l'administration de Trésor. Quand vous allez au niveau des sous-préfets et de leurs services, mais c'est la misère. Bon. Autant les administrations décentralisées, les communes, sont dépourvues de moyens. Donc, promenez-vous un peu dans ce pays. Allez-y dans le bureau d'une administration de base et allez-y dans le bureau d'une administration centrale. Vous voyez tout de suite à quoi les ressources sont utilisées. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas 10 000 solutions. Si nous voulons des services publics de base, envoyons les ressources dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'eau potable, dans les autres. Envoyons les ressources. Inversons la pyramide. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une pyramide qui est sur le sommet. Il faut que la pyramide soit sur la base. Voilà.
Mais concernant le secteur de l'éducation, il y a un des habitants qui ont été interrogés qui l'ont dit qu'avant, tous les dirigeants du pays sont passés par les écoles publiques. Mais aujourd'hui, pour qu'un élève soit bien formé, il faudrait qu'il passe par les écoles privées. Pourquoi ?
Ah, parce qu'avant, on n'était pas nombreux.
Mais est-ce que la formation n'était pas de qualité ?
Oui, mais parce que la formation de qualité, c'est quoi ? C'est un enseignant de qualité. On l'a aussi un peu oublié, ça. Parce qu'on a pensé que l'école, c'est les infrastructures d'abord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, l'État... On ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. L'État a beaucoup investi dans l'infrastructure. Mais s'il y a l'infrastructure, s'il n'y a pas l'enseignant, surtout un enseignant de qualité, ça ne sert à rien. Or, les enseignants, aujourd'hui, bon, je n'ai pas besoin de le dire, moi, je n'ai pas été enseignant, mais quand vous écoutez les enseignants, ils sont les plus maltraités du personnel de l'État. Aujourd'hui, personne n'est enseignant par volonté personnelle. Or, avant, on allait enseigner parce que l'enseignement plaisait aux gens. Et dans le domaine de la santé, c'est pareil. Moi, je crois qu'on peut rester longtemps à discuter ça, mais tant que il n'y a pas de réforme volontariste, on l'a essayé vraiment. Les premiers décrets qui ont été pris en 2002 pour transférer les compétences et les ressources dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'eau, c'est moi qui les ai pris en 2002 en tant que ministre de l'administration territoriale. Je vous dis, c'est là où ça a bloqué. Parce que les administrations centrales restent accrochées encore à la ressource, à la gestion de la ressource publique. Et tant qu'on restera dans ça, d'abord, il n'y aura pas suffisamment d'enseignants, il n'y aura pas suffisamment d'enseignants formés, il n'y aura pas suffisamment de médecins, il n'y aura pas suffisamment de médecins formés. Et même si les gens formés sont bien formés, même s'ils sont là, ils n'accepteront pas d'aller travailler à la base. Parce que, bon, il n'y a pas
que... Vous dites que pas de médecins, par exemple, bien formés, alors qu'au niveau du secteur privé, les gens disent avoir une offre de bonne qualité. Mais au niveau du secteur public...
Parce qu'ils sont bien payés, ils gagnent l'argent.
Souvent, ce sont les professionnels du secteur public qui ouvrent des cliniques au niveau du secteur privé.
Vous voyez tout, c'est le problème d'argent. C'est pas, s'ils ne sont pas payés, s'ils ne sont pas motivés, ils n'iront pas dans le public.
Alors, Monsieur Mamadou Kanté, pourquoi Monsieur Mamadou Kanté, alors, on va donner la parole donc à Monsieur Adama Traoré. Qu'est-ce que la société civile a fait pour dénoncer cette situation?
Ben... Le fait, ce n'est pas seulement de dénoncer. Nous subissons. Aujourd'hui, je pense que le ministre a touché du doigt plusieurs points. Aujourd'hui, au niveau de la santé, mais qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Pour que les citoyens lambda puissent avoir le minimum pour se faire soigner. Et également, la proximité. Imaginez-vous, dans certains centres, et pour avoir accès, tu parcours souvent 5, 6, 7 kilomètres pour arriver à un centre de santé. Et dans des conditions souvent difficiles. Et tu arrives, il n'y a pratiquement pas de médicaments à t'apporter. Le premier soin, déjà, pendant que le malade est couché, on te donne l'ordonnance. Il est là maintenant, il faut que tu sortes à courir d'abord partout maintenant pour avoir de quoi venir soigner ton malade. Même le premier soin seulement n'existe pas. Il faut quand même qu'on arrive à un moment donné, au moins déjà qu'ils puissent qu'on puisse avoir le minimum, n'est-ce pas, pour la santé. Bon, c'est pareil pour l'éducation, mais le ministre l'a dit. C'est-à-dire, qui dit éducation, dit la formation. Et il faut d'abord des formateurs. Il faut qu'il y ait des gens qui sont bien formés. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Vous savez, on parle beaucoup des privés, mais j'en sais quelque chose. Hein. Privé, public aujourd'hui, là, tout se confond. Hein. Même ceux qui sont dans le privé aujourd'hui, ils ne sont pas là par vocation. Hein. Ça, c'est, y a des problèmes d'intérêt spécifiques. Et même là encore, hein, la formation, il faut aller à la base pour se rendre compte. Bon, je pense que vraiment, il y a lieu vraiment de changer beaucoup de choses. Alors, ce que nous disons, qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, il y a des moments où on dénonce, on revendique. Mais on ne peut pas passer tout le temps à dénoncer, à revendiquer. Il va y avoir un moment donné que nous puissions, évidemment, on ne le souhaite pas. Parce que par fin, évidemment, c'est un ras-le-bol, les gens se soulèvent, on enlève à des casques et c'est inutile.
Mais toujours par rapport à l'éducation, hein, au-delà de la qualité de la formation, est-ce qu'il ne faudrait pas également revoir les domaines de formation pour mieux répondre aux besoins du marché de l'emploi quand on voit l'augmentation du taux de chômage?
Oui, mais ça dépend du programme. Distribuer ça aux élèves. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui conseille un programme. Et aussi, il faut voir les niveaux. Quand un élève qui n'a pratiquement aucune base scientifique, quand on lui demande d'aller vers les sciences, il va y faire quoi? Et la plupart du temps, vous avez vu, maintenant, le secteur, c'est pratiquement les littéraires qui dominent. Bon, on pense que c'est la voie la plus simple. Bon, je pense que vraiment, il y a lieu effectivement de voir pour qu'on puisse former les enfants et les adapter par rapport aux métiers qui existent. Je pense que ça, c'est une réalité. Mais maintenant, comment y arriver? Il faut maintenant que nous puissions faire un mouvement d'ensemble, qu'on puisse réfléchir, comme il a dit, approfondir le débat, pour que nous puissions arriver effectivement à s'impliquer. Que nous, on puisse nous écouter aussi. Parce que par moi, est-ce qu'on est vraiment écouté en tant que société civile? C'est ça aussi le problème.
Mais pourquoi vous n'êtes pas écouté?
C'est un problème de gestion. Vous savez, quand le programme est centralisé à un niveau, il y a des moments où, vous savez, l'administration centrale, il y a une sorte d'accaparement. Alors, c'est bien qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités au service des bas, n'est-ce pas, de pouvoir bénéficier de ce qui peut leur arriver.
Monsieur Ousmane Sy, vous êtes ancien ministre, vous étiez au pouvoir. Pourquoi la société civile n'est pas écoutée?
Bon, vous savez, la société civile, elle agit par pression. Bon, si elle agit par pression, que les pressions ne comptent pas. Ou bien souvent, bon, la société, si vous savez, c'est un concept tellement large aujourd'hui qu'on ne sait pas de quoi il s'agit exactement.
Mais est-ce qu'elle est bien organisée, vous m'avez dit?
Bon, moi, je ne suis pas dans la société civile, je ne pourrais pas vous dire si elle est bien organisée. Mais une société civile, ça reflète les réalités du pays. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas la société civile seule qui peut changer ces choses-là. Il faut que, vraiment, il est temps. Surtout que ce pays est pris à la gorge. Ce pays est pris à la gorge aujourd'hui. Ce pays joue son futur aujourd'hui. Et il faut que cette crise soit pour nous tous, qu'on soit société civile, qu'on soit politique, qu'on soit secteur privé. À partir du moment où on est malien, il faut que cette crise soit une occasion d'interpellation forte, de dire si nous sommes dans une crise profonde aujourd'hui, il faut qu'on accepte tous de nous remettre en cause. Principalement, bien sûr, on dira principalement les politiques. Et regardez aujourd'hui, en dehors même des questions de sécurité, on sort de un mois et demi d'une grève du personnel de la santé. Et c'est une forte interpellation. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas un pays au monde où pendant un mois et demi, les services publics de la santé ont fermé sans que rien ne se passe. L'éducation est en grève. Bon, je ne vais même pas à l'intérieur du pays, Bamako, les quartiers de Bamako, pour avoir de l'eau aujourd'hui, c'est machin. Donc, c'est une interdiction. Ça veut dire que nous n'avons pas bien géré. Ou bien même si nous n'avons pas bien géré dans la durée, dans la continuité. Parce que une bonne gestion ne donne des résultats aussi que si on le fait pendant longtemps. Si tous les 5 ans, on change de priorité, on n'aura pas de résultat. Okay. Je crois que c'est tout ça cumulé qui fait aujourd'hui que nous devons accepter de regarder les réalités en face et d'accepter de nous réformer. Moi, je n'arrête pas de le dire. À la limite, j'ai fini par devenir un prêcheur. C'est la réforme seule qui peut sauver le Mali aujourd'hui. Or, j'ai l'impression que, en grande majorité, les gens pensent que le Mali est une super. Apparemment, on a fait des élections, on a organisé, on a pu avoir un président de la République, on a pu avoir une assemblée nationale. Le Mali est devenu un pays normal. Le Mali n'est pas un pays normal encore.
Parmi les principaux défis, le cadre stratégique pour la réforme de l'économie, pour la relance économique et le développement durable souligne, concernant le secteur de l'éducation, la faible qualité des enseignements et des apprentissages, surtout au niveau des collectivités territoriales, la faiblesse de l'accès à l'éducation à cause de l'ampleur des inégalités, la faiblesse de la gouvernance du secteur, l'inexistence d'une carte scolaire adaptée et l'inadéquation entre formation et emploi. Il y a également le secteur de santé, mais on oublie un peu le secteur de la sécurité aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un service social de base auquel le citoyen devrait avoir accès facilement ? Aujourd'hui, quand on voit la multiplication des attaques, quand on voit l'insécurité au niveau du centre et du nord du pays. Mamadou Kanté. Allez-y.
Non, ça va.
Votre réaction compte également. Vous êtes le directeur du programme d'engagement civique.
Oui, eh ben, nous n'intervenons pas dans le domaine de la sécurité, quoi. Sans plutôt
Nous allons observer une première pause et revenir tout de suite.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Ce que les deux autres disent là, je suis d'accord avec, donc je ne veux pas.
Alors, monsieur Traoré, docteur Traoré, vous êtes représentant de la société civile. Il y a également la question de l'urbanisme et de l'habitat. Aujourd'hui, quand on voit le coût des locations dans les centres urbains, c'est une urgence de réagir par rapport à cela. Les lois ne sont pas respectées. Qu'en dites-vous?
Oui. Vous savez, le problème foncier au Mali, on peut dire que c'est presque unique. Quand on voit le ski de l'Afrique, le cas malien devient un cas spécifique. C'est la gestion de l'immobilier. Comparaison n'est pas raison, mais j'ai assisté un moment à un débat qui s'est passé à Ouaga, où on a interpellé le maire de Ouagadougou, qui était le colonel Tchendré Bego, si Vincent Morne, où c'était au temps de Sankara, et par rapport aux distributions, n'est-ce pas, des lots. À ce maire, on lui avait reproché 6 lots. 6. Il s'est attribué 6 lots. Vous savez que ça lui a conduit à la potence. C'est le conjuré de la Pentecôte. Il a été fusillé par Sankara pour avoir pris 6 lots des faibles, des paysans.
Mais au Mali, concrètement, quel est le cas?
Ici,
la situation?
La situation, elle est catastrophique. Elle est catastrophique.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, à un moment donné, on a fait un diagnostic. Il y avait les 6 communes, au sein de Moussa. Après le coup d'État et l'avènement de la démocratie, Nous sommes amusés à faire le tour des maires qui ont géré cette époque-là, jusqu'au coup d'État. On a rarement vu un maire qui a à la fois 3 maisons. Il y avait un seul cas qui avait 2 à la fois, pas plus. Mais après, de l'avènement de la démocratie aujourd'hui, mais il n'y a pas un maire qui n'a pas pour payer entre 20, 30, 40, 50 lots, 100 lots, voire 100. Au détriment de qui? La population. Alors, le foncier, ça part d'abord, c'est-à-dire le foncier est devenu une source de richesse pour les gouvernants, pour les maires. Donc, la mairie est devenue, par exemple, la chasse gardée, n'est-ce pas? Bon, excusez-moi, les partis politiques.
Oui. Et à ce côté, il y a également, au niveau des locations, les propriétaires de maisons fixent les prix comme ils veulent. Dans un même quartier, on peut avoir 2 appartements qui sont les mêmes, qui sont identiques, à 50 000 et à 75 000. Est-ce qu'il n'y a pas une loi par rapport à cela?
Bon, la loi à ce niveau-là, vous savez, on ne peut pas. Celui qui a les moyens qui paye. Si tu n'as pas les moyens, tu ne vas pas louer.
Monsieur le ministre, il n'y a pas une loi par rapport à
je,
cela.
Je ne connais pas bien le secteur, mais normalement, je crois qu'il y a un texte qui, même si ce n'est pas des montants précis, qui plafonne quand même les valeurs locatives. Maintenant, tout le problème est que au Mali, on a des textes pour tout.
Ouais,
mais personne ne les respecte.
Mais c'est ça aussi le problème.
Parce qu'il ne s'agit pas de faire des textes, il faut les respecter. Et il faut veiller à leur respect. Et malheureusement, c'est là où on pêche beaucoup aussi. Et quand ce n'est pas respecté, il faut sanctionner. Et on ne sait pas, on ne veut pas sanctionner.
Et docteur Traoré, par rapport à la justice, est-ce qu'aujourd'hui le Malien a confiance à la justice malienne?
Non. Pour beaucoup de raisons.
Notamment.
Le pauvre n'a pas son compte à la justice malienne. C'est venu une justice monnayable. C'est-à-dire, au plus de 10 ans, tu as les moyens, tu as ta justice. Tu n'as pas les moyens, alors en ce moment-là, tu subis. Ça, c'est le constat du citoyen lambda aujourd'hui au Mali. Par rapport à la justice.
Monsieur le ministre, la cause de beaucoup de conflits communautaires est jugée être des décisions judiciaires. Et Monsieur Traoré vient de le dire aujourd'hui, le Malien n'a pas confiance en la justice. Que faudrait-il faire par rapport à ce secteur?
Ça revient toujours à la même chose. Hein. Je pense que c'est un secteur aussi où les juges, comme les maires, comme l'administration, sont en mauvaise réputation, sont accusés de corruption, sont accusés de tous les maux. Moi, je crois que le secteur public, d'une façon générale, parce que vous ne prenez aucun secteur aujourd'hui dans l'État, les gens n'ont pas de reproches. C'est une occasion de... Pourquoi le Malien n'est pas satisfait de l'action publique? Or, l'action publique est le résultat d'une politique. C'est-à-dire qu'on a des problèmes avec les politiques. Bon, les politiques, qui les met en place? C'est vous et nous tous qui votons pour les mettre en place. Souvent, pour rester sur les maires, moi, comme j'étais un des acteurs de la décentralisation, au moment des élections locales, beaucoup de jeunes viennent me voir, des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, pour ne pas qu'on dise que je stigmatise les jeunes. Beaucoup de gens viennent me voir pour dire « Ah, monsieur le ministre, nous, on veut aller nous présenter aux élections locales. Quel conseil vous avez à nous donner ?» Vous savez, les premières questions que je leur pose, je dis, vous voulez aller aux élections dans quelle commune? Ils disent le nom de la commune. Je dis, est-ce que vous connaissez le nombre d'habitants de la commune? Ils ne connaissent pas. Est-ce que vous savez de quoi les gens de la commune vivent? Ils ne savent pas. Est-ce que vous savez quelles sont les activités principales? Ils ne savent pas. Je dis, mais vous, qu'est-ce que vous cherchez? Vous n'allez pas pour développer? Bon, les élections sont devenues, quand on va aux élections dans une commune, c'est pour aller s'enrichir. Or, il y a des textes qui prévoient que quand quelqu'un fait pas normalement les choses, on peut les sanctionner. Mais les maires sont très peu sanctionnés parce que les responsables n'osent pas les sanctionner. Et quand on les sanctionne, mais c'est celui qui a sanctionné qui devient un problème, ce n'est pas le maire qui a volé.
Exactement.
Là aussi, je vous parle en connaissance de cause. Je suis un des rares ministres de l'administration qui a la plus. J'ai relevé les maires, j'en ai sanctionné.
Mais concrètement, par rapport aux actions,
qui par rapport
aux réformes que vous proposez en tant que ministre, quelle action avez-vous posée?
Mais il faut sanctionner, il faut appliquer les lois.
Mais est-ce qu'il suffit seulement de sanctionner? Par rapport aux mesures, quelle est celle que vous avez proposée?
Vous savez, je vous dis, je n'invente pas des choses. Hein. Quand vous prenez les textes, il y a des chapitres entiers qui sont sur les sanctions. Mais personne ne veut sanctionner. Si on ne veut pas sanctionner, c'est chaque personne, chaque humain est soumise à des choses, surtout chez nous ici. Quand vous êtes responsable, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de gérer, mais tous les gestionnaires publics le savent. Mais les premiers à venir vous détourner de vos responsabilités, à vous mettre sur les mauvais chemins, c'est vos parents, c'est vos amis, c'est le machin. Aucun Malien n'est à l'abri de ça. Ce qui peut vous retenir, c'est la sanction. Mais si on ne sanctionne pas.
Oui. Mais également, vous dites qu'il faut une réforme au niveau de tous les secteurs. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez?
Moi, je propose sincèrement qu'on... Comme je vous ai dit, nous avons aujourd'hui dans le domaine public une pyramide qui est sur le sommet. On a conçu un État qui n'a rien à voir avec nos réalités. Je suis un des acteurs de la démocratie, je l'ai observé, on a conçu une démocratie qui n'a rien à voir avec nos sociétés. Donc,
les gens n'adhèrent pas. Aujourd'hui, pour chacun de nous, sa communauté est plus importante que l'État. Je crois que ce sont ces réformes fondamentales qu'il faut qu'on engage. Or, personne ne veut faire ces réformes-là. Ou bien même si on les fait, on les arrête en chemin. Regarde, on est en train de parler de la réforme constitutionnelle. C'est l'occasion aujourd'hui de faire des réformes profondes. Nous avons des institutions qui tournent à vide, qui ne servent à rien, osons le dire.
Est-ce que la situation s'est empirée, s'est détériorée ou s'est améliorée avec le régime d'Ibeka?
Je ne stigmatiserai pas le régime d'Ibeka, je ne suis pas...
Mais la gestion actuelle du pays, vous la jugez comment?
Ibeka a juste continué ce que les gens savent faire. Je crois qu'au point où on est, ce n'est plus un problème de personne, c'est le système qui ne fonctionne pas.
Oui, mais il y a eu un habitant qui a demandé à ce que les promesses d'Ibeka soient tenues.
C'est-à-dire que vous serez à la place d'Ibeka demain, vous allez faire la même chose. Moi, je vous dis non, nous sommes dans un système politique et institutionnel qui ne fonctionne pas. Aussi longtemps que nous n'oserons pas attaquer ce débat directement, nous allons mettre n'importe qui. Vous avez vu des gens ici qui sont de bonne foi, on a fait des bons discours, dès qu'ils sont sur des postes de responsabilité, ils sont piégés. Je crois que ce n'est pas un problème des personnes. Nous ne sommes plus à l'aune de personnes. Je ne veux pas dire que les personnes sont importantes, pas importantes. Mais même les bonnes personnes, quand on les met dans un système politique institutionnel qui ne fonctionne pas, les résultats ne seront pas là.
Alors, Monsieur Traoré, parlons du processus de décentralisation. L'accès des services sociaux de base au niveau local, qu'en est-il aujourd'hui?
Bon, je pense qu'en réalité, le ministre était mieux placé quand même pour parler de ce service-là. Parce que
vous êtes représentant de la société civile.
Nous, vous savez, tout ce qu'on peut dire... Et vous parlez des services de base. Il y a le sauté Mola sur l'occasion quand il a parlé des sanctions.
Mais est-ce qu'au niveau local, par exemple, prenons un exemple à Berre, par exemple, est-ce que la population a accès aux services sociaux de base?
Mais c'est ce que je vais vous dire. Pour qu'une. Pensez d'abord à la sécurité. La zone dont vous parlez. Mais il n'y a pas, ça veut dire, il n'y a même pas le personnel censé pouvoir donner le soin. Il n'existe même pas. Alors, la première façon de qui? J'ai voulu parler, n'est-ce pas, j'ai essayé de me placer dans un cadre global, hein, pour l'instant, avant d'arriver au service social de base. Vous savez, la gestion dans son ensemble, ça passe sous des fondements. Et la première base, c'est la justice. Quand tu as une bonne justice, on est certain que à quel niveau qu'on se situe, la sanction peut être appliquée et exécutée.
Okay. Ça, c'est par rapport au fonctionnement, mais par rapport à l'accès. Mais
l'accès, pouvoir, oui.
On voit beaucoup de personnes qui sont obligées de quitter les cercles, les communes, pour venir forcément à Bamako pour se faire soigner.
La preuve est là, je vous dis, non seulement il y a un problème de moyens, mais l'état actuel de notre pays, et la sécurité, elle est fondamentale. Il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de matériel. Alors, tu vas faire quoi?
Vous savez, je sais pas comment vous appelez, excusez-moi.
Mohamedou Touré.
Monsieur Touré, si vous mettez de l'argent aujourd'hui, vous créez du travail, vous créez des revenus à Berre, les gens iront se faire soigner. Il n'y a pas de mystère. Là où il n'y a pas de revenus, là où il n'y a pas de travail, personne n'ira. Regardez la situation au Mali aujourd'hui. Tout le Mali se dépeuple au profit de Bamako.
Et justement, parlons du cadre stratégique dont je parlais tout de suite. Il dit que les enjeux pour l'emploi se situent à deux niveaux. D'une part, l'extrême pauvreté qui persiste dans le secteur rural. Certaines populations devront quitter et abandonner déjà l'agriculture pour forcément venir à Bamako. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un échec au niveau du processus de décentralisation?
C'est pas un niveau de processus. Je vous ai dit tout de suite les limites, les difficultés qu'on a eues. C'est pas la décentralisation qui a échoué. Ça veut dire qu'on a engagé une réforme qui doit respecter certaines logiques. Il faut que les ressources publiques soient dépensées au niveau local. Si on continue à retenir les ressources publiques au niveau central, ça ne marchera pas. Pendant la transition, là aussi j'étais secrétaire général de la présidence, on a profité de la rencontre de Bruxelles pour dire qu'il faut que 30% des ressources publiques soient transférées aux collectivités, ce qui a été validé par tout le monde, c'est même dans l'accord.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer au ministère des Finances? On est en train de dire non, ce n'est pas 30% des ressources budgétaires, c'est 30% des ressources fiscales. On résiste.
Oui.
Les administrations centrales refusent, malgré tous les textes, et les politiques n'en font pas leur problème. Donc on résiste. Aussi longtemps que les ressources publiques seront centralisées, dépensées à Bamako, tout le Mali viendra à Bamako. On vide les territoires, on les appauvrit et on les vide. Après, on est étonné qu'il y ait des révoltes, qu'il y ait des occupations de territoire. Non. Si on veut aujourd'hui que le développement se fasse à Kidal, ce développement se fasse à Sikasso, à Kenyeba, il faut faire de la dépense publique là-bas. Et malheureusement, la dépense publique est faite à partir de Bamako. C'est pour ça que toutes les entreprises sont à Bamako ici. Et tous les chercheurs d'emploi sont à Bamako. Tant qu'on ne parlera pas de ça, c'est ça que je parle. C'est pour ça que j'évoque les réformes profondes et importantes. Et cette crise était une occasion pour débattre de ça et faire le tournant. Mais encore, je suis désolé, on est en train de rater une occasion. Parce qu'on reste agrippé sur les choses classiques qui ont fait leur preuve qui ne marchent pas. Même si ça marche, ça ne donne pas de résultats satisfaisants.
Quand vous dites que ce n'est pas un problème de personne, un problème de régime, que c'est un problème de système, peut-on espérer compter sur un changement?
Oui, mais ça, le changement, on peut espérer sur le changement, mais justement parce qu'il faut que les gens espèrent sur le changement en changeant le système.
Alors, docteur, monsieur Mamadou Kanté, vous proposez une nouvelle approche par rapport à cela. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, notre programme tient compte de beaucoup d'éléments qui ont été évoqués ici. Je commencerai d'abord par dire que vous avez posé une question sur l'organisation de la société civile. Elle existe, elle est organisée.
Oui,
dans tous les domaines.
Oui.
Elle est dans tous les domaines. Il y a naturellement des faiblesses, des difficultés dans leur fonctionnement. Mais la société, que si vous prenez l'école, il y a un système de société civile de la base à Bamako, santé de la base à Bamako, et ainsi de suite. Les femmes sont organisées de la même façon. Donc, la société civile est organisée. Et elle rencontre beaucoup de difficultés dans ce qu'elle fait, mais déjà, il y a une organisation en place. Bon, nous avons un programme qui est financé par l'USAID, et qui part du contexte qu'on a déterminé comme suit. Par exemple, la faible participation des populations dans la gestion des affaires. La population participe très peu à la gestion. Le partage inéquitable, ça a été et des ressources et leur mauvaise gestion. Ça a été évoqué ici. L'exclusion des communautés dans la prise de décision, pas seulement à tous les niveaux, au niveau local, on s'occupe de ça. La méconnaissance de ça, c'est des droits et responsabilités des citoyens. Nous avons pensé aussi que ça, c'est un problème. Les citoyens ont des droits, les citoyens ont des devoirs, ils ne sont pas tout à tout.
Oui, ça, c'est par rapport aux défis, aux enjeux, mais quelle est l'approche que vous proposez?
L'approche que nous proposons, d'abord, est une approche de promotion d'un système de gestion qui s'institutionnalise, comme monsieur le ministre le disait, allant de bas en haut. C'est-à-dire que les gens vivant dans les communes, dans les petites localités, partir de ces lieux-là pour prendre les décisions et les remonter jusqu'au niveau de Bamako. Ça, c'est une de nos approches. Le deuxième élément de l'approche que nous avons dans notre programme, c'est celui qui consiste à promouvoir la participation privée-publique, le partenariat privé-public. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine, c'est pas exploité. Souvent, à cause même de la mauvaise gestion des ressources, si le privé met les ressources à disposition. Nous préconisons enfin finalement une campagne, c'est pourquoi nous sommes même avec vous, une campagne importante d'éducation à la connaissance des devoirs et des responsabilités, afin que ces devoirs et ces responsabilités ne restent pas seulement dans les papiers, mais qu'elles soient actées, que les gens agissent. C'est pourquoi nous avons appelé qu'ils s'engagent dans la défense de leurs devoirs mais aussi dans la défense et dans l'exercice de leurs responsabilités pour que la gestion des affaires publiques s'améliore.
Alors, M. Traoré, cette approche est proposée aux populations que vous représentez. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, si elle est appliquée normalement, il est certain qu'on peut trouver notre compte. Mais, comme l'a dit M. le ministre, vous savez, décentraliser veut dire transférer à la fois et les compétences et les moyens. Si vous envoyez des multitudes d'experts quelque part, qui soient là, et que les moyens ne suivent pas, il est certain qu'on n'aurait rien fait du tout. Donc, cette approche-là, c'est une approche participative de la population dans leur propre gestion. Ça permettra, n'est-ce pas, de s'impliquer, d'orienter, de comprendre ce qui se passe. Si on est à ce niveau, on va voter absolument à ce qu'il avait dit au premier départ, une décentralisation personnalisée. C'est-à-dire qu'au fait qu'on soit responsable dans ce cas-là. Alors, je pense que l'approche, j'espère que si vous approchez avec ça, je pense vraiment que ça peut être une bonne chose pour la société civile.
Monsieur Ousmane Sy, qu'est-ce que vous pensez de cette approche du PEC?
Non, je crois que c'est une approche qui me paraît adéquate, parce que je tout tend vers la responsabilisation à l'échelon de base de la société. On n'a pas suffisamment pris conscience de ça. Vous savez, nous voulons construire un pays à partir du sommet.
Ça marche pas.
Malheureusement, ça fait 60, plus de 60 ans qu'on est dans ça. Une maison ne se construit pas à partir du toit, hein. Une maison se construit à partir du soubassement. Or, nous avons attaqué le problème par le sommet. Après, on s'étonne que ça ne marche pas. Je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons... Vraiment, c'est pour ça que j'insiste, j'ai l'air de me répéter. Je crois qu'il faut, il faut que cette crise soit l'occasion pour nous, pour dire... Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait est mauvais. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous avons faites, peut-être qui ont donné des résultats, mais notre approche des problèmes du pays n'est pas bonne. C'est la leçon principale qu'on doit tirer de cette crise-là. Donc, de dire, allons-y refonder cette fois-ci pour vraiment donner un avenir à ce pays. Et refonder, c'est-à-dire allons-y regarder les dispositifs depuis le niveau local. Et regarder les dispositifs au niveau local aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur le niveau local, sur les communautés, sur les leaders de ces communautés, sur le territoire local et, l'a dit, sur nos valeurs.
Monsieur Mamadou Kanté, avez-vous consulté les habitants, la population par rapport à cette approche?
Cette approche découle de... Monsieur le ministre et moi, nous avons travaillé ensemble dans un projet précédent. Dans ce projet, cette approche de participation de base en haut était la promotion de cette approche de participation et de prise en charge du développement des affaires publiques, de la gestion des affaires publiques de base en haut, de manière transparente, hein, et insistant sur la redevabilité des acteurs. La société civile doit être redevable, comme le gouvernement doit être redevable.
Merci. Cette approche-là a été... quelle approche pour la gouvernance sur les services sociaux de base au Mali? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Comme invité, Mamadou Kanté, directeur du programme d'engagement civique PEC. Ousmane Sy, ancien ministre coordinateur de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Et Dr Traoré, Adama Traoré, président de la coordination des associations et regroupements de la société civile. Je suis Mohamedou Touré. Ce débat a été réalisé par Ibrahima Haran Diallo, à la régie vidéo Peting Diarra et au niveau de la technique Seydoumbo. Merci.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halid Mandi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.